près de 20h ce lundi 15 avril, la flèche de 93 mètres de haut, ses 250 tonnes de plomb et ses pierres millénaires s'effondrent comme une brindille. Notre-Dame est touchée en son cœur.
Il y a tout juste 11 mois, les Français, les yeux rivés à leurs écrans, regardaient incrédules la toiture de Notre-Dame de Paris partir en fumée. Une toiture avec sa charpente millénaire entièrement détruite. Des dégâts considérables liés à l'incendie et à son extinction par les pompiers, qui ont même cru pendant quelques dizaines de minutes ne pas pouvoir sauver l'édifice. Après l'effondrement spectaculaire de la flèche, la tour Nord a suscité une vive inquiétude. On ne mesure pas encore exactement les conséquences sur la santé publique de la fonte de centaines de tonnes de plomb, mais on commence à appréhender l'ampleur du chantier de reconstruction. Et nonobstant les déclarations optimistes du président Macron,
nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons.
Bien des professionnels ont des doutes. Car on ne sait pas encore si la cathédrale doit être reconstruite à l'identique ou bien si le travail de restauration accompli par Viollet-le-Duc sera modernisé. C'est lui qui, au XIXe siècle, avait doté la cathédrale d'une flèche. On ne sait pas si la reconstruction à l'identique se fera avec des matériaux différents, comme à Reims, où la charpente a été reconstruite en béton. Et si le savoir-faire existe bel et bien, on n'est pas certain d'avoir le nombre d'ouvriers nécessaires.
Si je parle de mon propre corps de métier couvreur, rien que sur Paris, on se rend compte qu'il manque 200 apprentis.
Parmi les dépositaires de ce savoir-faire, il y a les compagnons du Tour de France. Leur institution a été admise à la conférence des grandes écoles pour la qualité de ses formations et certains de ces ouvriers d'élite résolvent quotidiennement les problèmes qui vont se poser à Notre-Dame.
Le plus gros du chantier de Notre-Dame de Paris, ça va pas être la charpente ou la flèche. Ça va être la restauration des maçonneries.
Après Notre-Dame, le patrimoine en chantier, c'est un reportage de Christine Siméon qui commence précisément à la maison des compagnons du devoir de Champs-sur-Marne. Elle est située sur le campus de l'université Gustave Eiffel.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
Nous sommes de France Inter et nous venons voir M. Stéphane Cut.
D'accord, très bien.
Je vous accompagne. Ça, c'est ma classe. Ce sont les nouveaux coureurs de Champs-sur-Marne. J'en ai 17.
On a deux fois tellement à faire.
Je m'appelle Maxence Bélanger. Je suis formateur au sein des compagnons de Champs-sur-Marne. J'ai deux classes cette année. J'ai des apprentis qui sortent de 3e. Pour 2 ans de formation et des apprentis qui ont eux un diplôme, que ce soit dans le bâtiment ou dans d'autres diplômes finalement, que ce soit le droit, la médecine ou autre.
Ce sont des élèves en fait qui ont choisi de se réorienter, qui se sont dit bon j'ai un diplôme mais finalement ça m'intéresse moins et je vais devenir couvreur.
Tout à fait, en fait ils se plaisaient plus dans leurs études actuelles et du coup ils se sont dit par le biais de stage, bah voilà c'est le métier de couvreur zingueur que je souhaite faire plus tard. Et du coup, nous, on les aide à se former sur une période de 2 ans pour avoir du coup le CAP.
Je m'appelle Stéphane Cut, donc je suis formateur pour les couvreurs zingueurs au CFA de Champs-sur-Marne. Et donc, ça fait 37 ans que je suis couvreur et investi chez les Compagnons du Devoir. Donc voilà.
Donc là, on est dans un très grand atelier hein, qui fait, 300 mètres carrés facilement.
500 mètres carrés.
Avec... Je vais essayer de décrire ça avec des pans de bois inclinés, comme si c'était des toitures, en fait.
Tout à fait. Chaque maquette qui est ici, en fait, c'est pour simuler ce qu'ils peuvent rencontrer sur les chantiers. Sur ces supports, ils vont trouver toutes les configurations qu'ils vont pouvoir trouver sur le chantier pour utiliser tous les matériaux tels que le zinc, le cuivre, l'inox, la tuile, l'ardoise et l'ornementation.
Alors, du coup, c'est la caisse à outils. Alors là, en premier, on commence avec le casque anti-bruit, la scie, ensuite on a un sac à clous. En gros, c'est pour mettre son marteau sur le côté, c'est plus rapide.
Ça s'attache à la ceinture.
Ouais. Là, j'ai une pince plate, c'est pour le zinc. Si par exemple, je dois relever des bords ou ou aplatir quelque chose, je me servir de cette pince. Ben, moi, je m'appelle Martin. Je suis élève en prépa métier chez les Compagnons. J'ai 17 ans. Avant, j'étais en communication visuelle, mais du coup, j'ai opté pour la couverture cette année.
Mais alors, je vais quand même poser une question préalable, Martin. La communication visuelle, c'était pas bien, ça marchait pas
aussi. Si, mais j'avais envie de travailler dehors et le fait de la hauteur et tout, ça m'a bien plu.
Et là, faut faire des diagonales, ensuite repart comme ça. Donc. Vas-y, c'est parti.
Pardon.
Mais non, mais qu'est-ce que tu peux pas faire comme ça.
Ça me tue toujours, on a l'impression que c'est comme du carton, il manipule ça.
Mais ça, par contre, je peux vous assurer qu'on coupe ça comme du ciseau et du papier.
Vous pouvez essayer. Hein. Et ça, c'est facile.
Vous avez déjà fait du sécateur ou pas?
Oui.
Et ben voilà, vous avez le même réflexe. Vous pourrez être couvert. Il faut juste mettre le petit doigt là.
Pour... Là.
Exactement. Ouais. Et là, allez-y.
Mettez votre cisaille. Penchez-la, votre cisaille. Il ne faut pas qu'elle soit comme ça,
comme ça.
Il faut qu'elle soit comme ça.
Ah, comme ça.
Oui.
Allez. Et là, fermez. Voilà.
Ah oui, c'est vrai que... Attention à votre doigt.
Ouais, vous inquiétez pas.
Le métier de couvreur, c'est quelque chose qui ne sera sûrement jamais remplacé par les machines, parce que ça reste l'un des métiers les plus manuels qu'on a dans le bâtiment. Moi, j'invite tous ceux qui aiment la hauteur et les grands espaces et le métier manuel à venir en couverture. Je pense que ces trois choses-là, on les a.
Vous en avez bavé pour apprendre ou c'était dur?
Ah oui, ça a été dur,
ouais.
Mais heureusement, d'ailleurs. Je pense que c'est comme ça qu'on devient bon. Faut galérer quoi, pour avancer. Si tout était facile, on s'ennuierait.
Au final, vous auriez quand même pu choisir de rester couvreur uniquement, mais je constate que vous êtes aussi formateur.
Bah moi, j'ai eu un formateur quand j'étais plus jeune. Et les Compagnons, ils nous enseignent de bien transmettre notre métier. Et moi, le jour où on m'a dit, bah écoute, on a besoin de formateurs pour former des petits jeunes comme tu as été, bah, j'ai dit, bah ok, bah, c'est un cercle.
Stéphane Kut, je voudrais aussi que vous nous révéliez votre identité de compagnon.
Pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne chez nous, c'est que généralement on rentre donc en apprentissage. Et dans ces deux années, le jeune qui rentre va passer une petite cérémonie qu'on appelle la cérémonie d'adoption. Et de ce jour, il va porter le nom de sa province plutôt que son prénom. Moi, je suis natif de Lozère, donc je porte le nom de Gévaudan depuis ça. Ensuite, il va réaliser son tour de France, il va tailler ce qu'on appelle la réception, il va réaliser son chef-d'œuvre, où là, il va passer compagnon du devoir, et à partir de ce jour-là, il va porter une vertu qui le représente. Mon nom à moi, c'est Gévaudan, la clé des cœurs. Et donc ensuite, chez nous, les couvreurs, on a un autre passage qu'on appelle Bondrille, où là, on va soutenir quelque chose, dont mon nom de compagnon, qui est Gévaudan, la clé des cœurs, le soutien des quatre éléments.
Quand vous dites soutenir, ça veut dire comme soutenir une thèse, en fait. Et vous avez travaillé sur les quatre éléments.
Tout à fait.
L'air, le feu, la terre et l'eau.
C'est exactement ça.
Donc, cher Gévaudan, clé des cœurs et soutien des quatre éléments, moi, j'ai entendu dire à l'extérieur que des couvreurs, on en manque.
Alors oui, tout à fait. On a un métier en tension et on a en plus un métier qui est en pleine mutation. C'est-à-dire que c'est clair, des cathédrales, même moi le premier, croyez-moi, de l'ardoise j'en ai fait et tout, mais c'est plus ce qui me fait rêver aujourd'hui, et puis de toute façon, c'est pas ce qu'on fera demain. Aujourd'hui, on a des technologies qui sont très intéressantes sur des complexes isolants, des bardages, des toitures végétalisées, puis des process qui sont totalement innovants, et même quand on va commencer à parler de photovoltaïque, de thermique, on est dedans, nous, donc on est un métier qui bouge beaucoup, et au niveau de la technologie, qui avance très vite, et c'est ce qui est passionnant aussi. Quoi.
Depuis l'incendie de Notre-Dame, il y a eu tout un foin sur, oui, alors tous ces métiers, on ne les connaît pas assez, et puis ça va nous manquer quand on va devoir se lancer dans ce grand chantier de Notre-Dame. Est-ce que ça a généré plus d'engouement? Là, on me dit qu'il y a eu plus 10% d'inscriptions dans les CFA.
C'est à peu près ça, on est dans les 10%.
Tout corps de métier confondu?
Oui, enfin vraiment la hausse qu'il y a eu, c'est dans les tailleurs de pierre, couvreurs et charpentiers. Après, si je parle de mon propre corps de métier couvreur, rien que sur Paris, on se rend compte qu'il manque 200 apprentis. Sur l'Île-de-France, il y a 700 offres d'emploi dans le monde de la couverture. ça veut dire que dans 10 ans, il va y avoir un gros problème, un gros souci, parce que toutes les offres d'emploi qui en ce moment, bien sûr, les entreprises recherchent du personnel qualifié, mais le problème, il faut pouvoir les former, quoi. Et quand on n'a pas assez de monde, le vivier, il faut qu'il se renouvelle. Donc maintenant, on essaye de multiplier les rencontres de recrutement pour amener les jeunes au métier, et puis on leur explique que ce métier-là, maintenant, c'est plus du tout celui d'avant, il est intéressant, et puis même au niveau des rémunérations, on est quand même très bien payé, quoi. Au début, un apprenti va être payé comme un apprenti classique, voilà, à peu près dans les 500 euros. Un apprenti qui sort d'apprentissage, ça tourne environ, là je vais vous parler en net, hein, à peu près dans les 1400. Après, mes brevets professionnels qui sont en bas, c'est des gars qui vont, une fois brevet professionnel en poche, sont déjà dans les 2500 euros net. Et après, on peut, les conducteurs de travaux qui sont à 5000 euros net, on gagne bien sa vie.
Interception sur France Inter.
Des flammes visibles de presque toute la ville.
Il y a 5 ans, une autre basilique avait connu un sort très comparable à celui de Notre-Dame.
Le toit de la basilique Saint-Donatien, située dans le centre-ville de Nantes, se consume.
Là aussi, le feu était parti de la charpente. Là aussi, l'intervention des pompiers avait été très compliquée. Et là encore, les travaux de restauration requièrent le talent d'ouvriers d'exception. On retrouve Christine Siméon dans les rues de Nantes en compagnie de Romain Lucquins, le preneur de son.
Okay. Ça va, Romain ?
Bien, et toi ?
Petit matin nantais. Nous allons découvrir ici à Nantes la basilique Saint-Donatien. Donc cette basilique Saint-Donatien à Nantes, en fait, peu de monde la connaît. Tu la connaissais ?
Non, je la connaissais pas, non.
En fait, c'est une petite sœur de Notre-Dame de Paris. Parce que je ne sais pas si tu as vu, il y a deux tours sur la façade, en fait, avec une triple entrée pour pénétrer dans la basilique, des statues au-dessus des entrées. Et donc, si Saint-Denis est la grande sœur de Notre-Dame, puisqu'elle a été faite avant et que Notre-Dame a voulu faire mieux que Saint-Denis, eh bien Saint-Donatien est la petite sœur de Notre-Dame, où elle a essayé d'être une jolie petite Notre-Dame, bien fignolée en fait. Donc voilà, c'est une petite basilique qui a des envies de grande.
Donc bonjour à tout le monde. Ici, on est à l'intérieur de l'église. Les voûtes ont été complètement refaites après l'incendie, parce que les voûtes du chœur et du transept, la partie au fond que vous voyez là, il y avait eu l'effondrement des gravats qu'elle avait dégradé. Et les voûtes de la première partie, c'était l'action de la pluie et aussi des mousses qui avaient été mises pour éteindre le feu. En effet, qu'elles sont dégradées, le tuffeau des voûtes.
Je suis Pierluigi Pericolo, architecte du patrimoine. Et je suis chargé de la maîtrise d'œuvre des travaux des reconstructions de la basilique à Saint-Donatien.
Le 15 juin 2015, comme chacun sait, cette basilique a brûlé. L'incendie a pris d'ailleurs sous la toiture, dans la charpente. C'est un accident de chantier. Sécurisation tout de suite, pendant un an et demi, c'est ça, jusqu'en 2017.
Jusqu'en 2017. Un an et demi pour la sécurisation. Le déblaiement des gravats, la consolidation ponctuelle, voire consolidation définitive.
Début des travaux de reconstruction en 2018.
Septembre 2018, je dirais juillet-septembre 2018.
2020, les Nantais vont découvrir la belle nouvelle toiture de la basilique. La Tout façade est restaurée, ouais. Belle et lumineuse. Et printemps 2021...
On a raffiné notre chantier.
Là, on va implanter le deuxième escalier qui monte juste au clocher. Ça, c'est l'autre chemin aussi. Ils sont passés par là, les pompiers, et par là, ils ont amené leur matériel. C'est pour ça qu'on a mis en place des dispositifs pour les pompiers, pour avoir à ne pas amener ce matériel par des escaliers comme ça. Donc, faites attention aux marches.
Super étroit. T'imagines ouais, que les pompiers sont passés par ça
avec le matos.
Non, mais c'est un truc de ouf. Moi, j'ai du mal avec mon petit matos de rien du tout. Là.
Oh. Et cette première marche, là, la vie.
Oh non.
nous expliquer les moyens de lutte contre l'incendie qu'on va mettre
donc,
en place maintenant?
On va sur ce bâtiment, mais après la réflexion est menée sur l'ensemble d'autres bâtiments patrimoniaux inaccessibles. On a mis en place pour l'édifice, du coup, un découpage avec des tôles qui sera fait de la charpente pour limiter la diffusion du feu. Et après, l'autre problématique qu'on s'est posée, c'était l'accès aux pompiers. Ils avaient dû passer par les mêmes escaliers. Nous, on a eu du mal à passer nous-mêmes, mais eux, avec tout le matériel pour pouvoir éteindre un incendie colossal. Hein. Donc, on a mis en place des colonnes sèches, ça veut dire des tuyaux avec des prises d'eau qui sont à chaque niveau, de façon que les pompiers n'ont plus à amener leur matériel, mais ils vont, en cas d'incendie, se brancher directement à chaque niveau et donc intervenir de façon plus rapide et aussi plus en sécurité. Parce que s'ils n'étaient pas intervenus, la totalité de la charpente serait effondrée sous les voûtes et on aurait eu ça qui s'est passé à Notre-Dame, des désordres beaucoup plus importants et donc une vraie remise en cause de la structure du bâtiment. Hein. On va avancer jusqu'à ce stade-là, si vous attendez. Là, on est à la base, des clochers. On rentre par là à la charpente. Élément intéressant qui reste un peu dans la mémoire de l'édifice, il y a deux ouvrages en bois, que c'est les saules qui sont restés d'après l'incendie et qu'on a gardé pour la mémoire de cet événement. Et donc, les deux fermes ont été conservées, on les a gardées dans le projet. Après, on peut... Hein? Les fermes, c'est ces ouvrages en bois exceptionnels que les charpentiers ils ont réalisés et qui servent à soutenir, à tenir le toit. En effet, ça donne la forme au toit. Quand je garderai un souvenir de ce chantier, je ne le garderai pas pour la quantité du bois, mais pour les moments dans lesquels on a vu une fourmière des charpentiers pouvoir mettre à la verticale cette pièce, et après l'autre, et après monter élément par élément. L'exploit de ce chantier est que les pompiers ne pouvaient pas accéder sous les côtés, les entreprises non plus. Donc tous les ouvrages ont été montés sur place. Je dirais que c'est encore le travail des hommes qui, à mon avis, reste le plus remarquable. Il faudrait garder ça. Moi, j'ai gardé tous les gars, moi, comme souvenir.
Donc, je m'appelle Luc Dubourg. Je suis co-gérant de l'entreprise Couverture de Loire, basée au Coudray-Macquart, à côté de Saumur. Donc, nous, on est intervenus pendant cette première année pour toutes les restaurations de couvertures ardoises. Pour nous, c'est 2 ans et demi de travail qui sont donc étalés en plusieurs phases. Là, on vient de terminer, on va dire, la grosse moitié, donc toute la partie haute de la basilique. On va attaquer en début d'année prochaine toutes les parties basses qui représentent les autres 50% du chantier pour nous.
Donc vous, il vous faut 4 ans pour faire, grosso modo, les toitures de cette basilique.
Alors entre les premiers travaux de mise en sécurité et effectivement réception, donc il y a à peu près effectivement 4 ans. Le travail spécifique sur des monuments de ce type-là, c'est tout le travail du plomb, le travail du zinc. On a un faîtage en 3 éléments en zinc, des ornements de toiture en zinc également, tout le façonnage du plomb dans les chéneaux, des besaces. On travaille des matériaux qui ne sont pas forcément courants pour une couverture d'une maison individuelle. Donc c'est vraiment perpétuer ce savoir-faire du travail du métal, qui est un travail spécifique et qui s'apprend sur le chantier.
On va avancer vers le cœur, dont on a un passage un peu difficile. Et là, on va arriver à l'extérieur. Vous avez sur le côté des tailleurs de bière qui interviennent sur les deux clochetons qui sont à droite et à gauche du pignon qui donne vers le cimetière.
Alors là, je suis dehors, sur l'échafaudage extérieur. Donc je vois toute la ville de Nantes, la cathédrale au loin.
Donc, il y a plusieurs équipes. Nous, on est à l'intérieur de la nef, dans l'église. On a des équipes qui sont dans cet espace, d'autres équipes qui travaillent sous les extérieurs, sous les autres côtés. Et le lien entre toutes ces équipes est constitué par les échafaudeurs qui démontent et remontent incessablement depuis le début du chantier les échafaudages. Tout ce métal que vous voyez, il a une permanence déployée d'un côté et d'un autre. C'est pour ça que dans tout le chantier, on entendra tout le temps des bruits des montages, des bruits des démontages.
Donc moi je suis Marion François, j'ai 29 ans, j'ai récemment effectué une reconversion professionnelle dans la taille de pierre.
Et je suis donc un BP cette année en alternance avec l'entreprise Lefebvre. Alors aujourd'hui, j'ai fait un petit peu de joint, j'ai déposé une pierre sur la façade.
Parce qu'elle était malade ?
Parce que ouais, elle était fissurée, donc il fallait la déposer pour la remplacer. Donc j'ai taillé la nouvelle pierre à poser, et là j'étais en train de l'installer, en train de l'afficher, de mettre le mortier pour l'installer dans la façade, quoi. Ce sont des charges qu'on n'a pas l'habitude de porter tous les jours, des mouvements, des positions, donc il faut quand même se muscler un petit peu. Là pour l'instant je suis pas encore au point, mais j'ai bon espoir.
Et vous avez quitté quoi pour ce métier de taille de pierre ?
J'ai quitté un métier d'analyse média dans le sponsoring sportif. Donc rien à voir, j'étais à Paris, c'était vraiment un métier de bureau. J'aimais beaucoup d'ailleurs, hein, mais j'avais envie de quelque chose de plus terrain en fait. Et puis je suis tombée sur la fin d'un documentaire, puis j'ai eu une sorte de coup de foudre. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire, et voilà.
Pas de regrets ?
Pas du tout.
Malgré les blessures sur les mains, la poussière sur les bras, le froid, le vent.
C'est le début pour l'instant, donc moi j'aime bien, non, ça, tout va bien.
Vous vous attendez à quel type d'autres chantiers pour l'avenir ? Qu'est-ce que vous aimeriez ? À quoi vous rêvez ?
Alors, je vous avoue que moi, mon objectif à la base, c'était de travailler sur ce type de bâtiment. Donc, franchement, en termes de rêve, moi aussi, Notre-Dame de Paris quand même. Mais...
Notre-Dame de Paris, vous êtes pile dans le timing.
Exactement, c'est ce que je me suis dit. Je termine le BP, et puis hop, on file à Notre-Dame.
Il y a beaucoup de femmes sur ce chantier.
Il y en a, oui, il y en a pas mal finalement. On est là en ce moment, on est 4. En taille de pierre, on est 2. Mmh. Et chez les vitraillistes, elles sont 2 également.
Je m'appelle Marie Clairon, je travaille à l'atelier de vitrail Verrier d'Art Éric Boucher, à côté d'Angers.
Comment vous êtes devenue vitrailliste ?
Moi, dans un premier temps, je voulais faire du graphisme. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop assisté par l'ordinateur, il me manquait quelque chose de manuel. Et en fait, je me suis rendu compte que le vitrail, c'était parfait parce que c'était toujours une gestion d'image, des couleurs, de guider l'œil dans un espace, etc. Sauf que c'était vraiment manuel. Donc ça a pu combler toutes mes attentes.
Et en quoi consiste exactement votre travail ?
Donc, soit de la restauration dans des bâtiments patrimoniaux divers.
Donc c'est refaire les couleurs, c'est les nettoyer, c'est...
En général, oui, c'est soit on nettoie seulement, on ressoude à quelques endroits, on répare les quelques pièces, soit on défait complètement le chemin de plomb, on démonte le panneau, on garde que les morceaux de verre en bon état. On va compléter avec des nouveaux morceaux de verre là où il y avait des trous et on remonte à neuf un nouveau panneau. Voilà pour la restauration. Et on fait aussi des créations complètes. Donc on part de zéro, on fait le dessin, on choisit les couleurs, on peint ou pas selon la commande et puis on refait tout un panneau à neuf aussi, si c'est possible.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
Quittons les bords de Loire pour les rives de Seine, car c'est à Rouen que Christine Siméon et Romain Luquien sont maintenant rendez-vous avec Charlotte Hubert. Elle est la présidente de la Compagnie des architectes en chef des monuments historiques, 40 experts, dont 2 femmes, qui veillent sur les monuments publics. À Rouen, elle supervise des travaux compliqués de réhabilitation d'une chapelle romane, un temps transformée en poudrière et donc dotée d'une double voûte par sécurité.
Moi, on est en parfaite sécurité.
Ah oui.
Hein.
Oui, c'est sûr, mais moi, je ne vais pas aller là-haut. En fait.
Ah bon ?
Ouais.
C'est un truc.
Je vous laisse avec Romain. Mais...
Vous avez le vertige ?
Oui, oui.
Oh, le côté avec moi, elle est entre les deux. Ah non, t'as raison, t'es entre les deux.
Je trouve que c'est la première fois. Je vous ai expliqué qu'il y avait 2 voûtes. À cause de la poudrière, la voûte romane, et puis la voûte du 18e siècle de la poudrière. Et c'est ce qu'attendait Mathilde, là, l'architecte qui a travaillé sur le dossier beaucoup. C'est que par cette petite fenêtre, quand on monte, qui n'était pas accessible avant qu'on ait l'échafaudage, on voit entre les deux. Entre ces deux voûtes, chose qu'on a, nous, on n'a jamais vue.
On dirait que c'est un élément taillé, non ?
On dirait que ça faisait un peu un tas de charges en escalier, puis après ça a échappé. C'est bizarre, hein ?
C'est toujours.
Pourquoi ?
Aller faire une,
une vérive de dessus de voûte, on passera pas dans le trou là. Ah, moi je suis pas épais.
Ah bon?
Non, mais vous avez vu, c'est pas un passage d'homme ça. Sinon, faut qu'on. Non, mais.
Le passage d'homme, on va bien le trouver en déposant des planches pourries, non?
Parce que de toute façon, pour faire la partie inférieure, il faut qu'on fasse des trous d'homme dans le cattelage.
Ou bien on descend? Donc là, on est à Rouen, parce que c'est un marché que l'on a obtenu auprès de la ville de Rouen, qui est notre maître d'ouvrage, pour la restauration des édifices classés et inscrits, monuments historiques, lui appartenant. Donc la ville de Rouen, c'est une ville extrêmement riche en monuments historiques. Pour notre part, on s'occupe de 24 d'entre eux, avec des chantiers alors qui sont limités, puisqu'il faut essayer d'entretenir l'ensemble avec un budget donné. Donc on passe d'édifice en édifice pour essayer de les sauvegarder sans toutefois les restaurer de fond en comble puisqu'il faut préserver avant tout, avant de passer à de l'esthétique.
Et là-bas, c'est quoi ce bois là brûlé?
Léa Salamé.
Alors ça,
France 2.
La charpente, elle est là. Regardez. Oh,
la forêt, elle est là.
Elle est là-dedans.
7 mai 2019.
Pourquoi on dit une forêt? Parce que on prétend qu'il a fallu une forêt entière pour reconstruire. Pour construire, pardon, la charpente.
C'est
sans doute la perte la plus impressionnante forte. Pour nous et la plus forte. Hein.
Alors évidemment, on en a beaucoup parlé suite à Notre-Dame de Paris. Est-ce qu'on a les moyens en matériaux? La question des matériaux s'est posée, en termes de bois et tout ce qu'il nous faut. Et on a en France ce qu'il faut. Parce que tout le monde a vu cette charpente formidable partir en fumée. Il y a toujours une espèce d'image, et on en a parlé tout à l'heure là-haut, avec les anciens qui faisaient tout bien, et du mythe de la forêt à Notre-Dame, et du quantité de bois, comme s'il fallait 15 forêts pour refaire. C'est faux. Ça a été évalué d'ailleurs, il y a des articles de scientifiques hein, qui ont évalué le nombre de bois. On les a, on a la chance en plus en France d'avoir une forêt qui est bien gérée par l'ONF. Ça a été une peur injustifiée. Si on voulait refaire la charpente de Notre-Dame de Paris à l'identique, on a le bois pour le faire.
Et globalement, pour les chantiers en général en France, on retrouve les pierres qu'on cherche telles qu'on les cherche, c'est-à-dire dans le matériau, le bassin d'origine, etc. Les bois aussi, est-ce que tout ça, ouf, c'est fluide et ça pose pas de problème?
Non, ça pose problème, parce que les édifices qui nous entourent et partout en France sont construits dans des pierres extrêmement locales. Il y a énormément de carrières qui ont fermé. Et il y a des régions où on n'a plus la pierre d'origine. Alors on trouve toujours des pierres de substitution avec l'aide des laboratoires qui nous disent telle dureté, telle résistance à la vitesse du son. On trouve des. Après esthétiquement, c'est pas toujours pareil. Et puis la pierre, c'est aussi les toits, c'est aussi l'ardoise. Les ardoisières d'Angers ont fermé. Le château de Chambord est couvert en ardoise d'Angers. On n'a plus d'ardoise d'Angers aujourd'hui.
On fait venir des ardoises d'Espagne du coup.
Voilà. Alors des ardoises d'Espagne qui sont de très belle qualité. Après, c'est une nuance de couleur. C'est-à-dire que l'ardoise d'Angers, elle était bleu marine, voilà. L'ardoise d'Espagne, elle est légèrement plus noire. Est-ce que c'est grave? Oui, parce que si on change les choses petit à petit comme ça, on uniformise l'ensemble des édifices. La richesse de nos territoires, c'est justement la différence.
Et à Rouen, là, vous êtes sur...
Alors ici, on met de l'ardoise d'Espagne. Puisque voilà, c'est la plus proche de l'ardoise d'Angers, c'était de l'ardoise d'Angers à l'origine. On a la pierre d'origine ici, on a cette chance d'avoir la pierre de la vallée de la Seine ou pierre de Vernon. Donc on peut la racheter, ce qui est une richesse et auquel on tient. Parce que si un jour il n'y a plus assez de commandes, parce que c'est un coût et exploiter une carrière c'est compliqué. Hein. Si un jour le carrier et on ne l'alimente pas en commandes, bah on ferme la carrière, mais comment on restaure? C'est pas des choses qu'on peut relancer après en disant bah... Au bout de 10 ans, rouvrons la carrière. Non, avec le ministère de l'écologie, ouvrir une carrière, c'est très complexe. Il faut bien un volume pour la faire tourner. Donc c'est toute une chaîne qui fait que... Moi, c'est ce que j'ai toujours dit, la restauration des monuments historiques, c'est entretenir, certes, notre patrimoine, mais c'est surtout entretenir des savoir-faire, des métiers et des matériaux.
On voit donc que pour l'entretien de notre patrimoine architectural, l'argent reste évidemment le nerf de la guerre. Tous les architectes des monuments historiques doivent aussi être gestionnaires. Pour finir ce reportage, Christine Siméone est revenue en Ile-de-France.
Barrière de chantier. On entre sur le chantier de Saint-Denis.
À quelques portées d'arbalète seulement de Notre-Dame, se dresse en majesté la basilique de Saint-Denis. Tombeau des rois de France, elle est elle aussi en cours de restauration, afin tout simplement de pallier les outrages du temps. et tous les corps de métier, ou presque, s'y affairent en permanence.
Bruno Sauvage, atelier Chevalier, je suis directeur de travaux. Et on se focalise, nous, pour ce qui est de l'atelier Chevalier, sur la réparation des décors sculptés.
On remonte ?
On y va.
Interception. Sur France Inter.
Alors, on a une trentaine de mètres, à peu près. On est sur le côté sud de la basilique. Et on va pouvoir aller se positionner près de la restauratrice qui va faire un peu de sablage, un peu de micro-sablage pour retirer des salissures sur la pierre. Il faut qu'elle s'équipe, parce que c'est un procédé qui émet pas mal de poussière, puisqu'on projette un abrasif à une pression contrôlée sur le parement en pierre. Donc en retour, on a de la poussière qui est émise. Là, elle met son masque et ses équipements de protection. On voit la pierre, cette couleur ocrée qui réapparaît. Et une fois que la pierre est nettoyée, on voit tout le layage. Le layage, ce sont les marques des tailleurs de pierre qui ont travaillé au ciseau.
C'est pas trop dur, là, cette partie-là.
C'est très minutieux comme travail et très difficile à faire. Mais ça permet de redonner de la splendeur à la pierre. Là, je suis Giusy Gena, je suis italienne, je suis restauratrice, conservatrice de monuments historiques. Ça fait 6 ans et demi que je travaille pour l'atelier Chevalier. Je suis venue en France parce qu'en Italie, il n'y avait pas beaucoup de travail pour les restaurateurs, malheureusement. Du coup, maintenant, je travaille sur les plus beaux monuments de Paris et je suis très contente. Merci beaucoup pour nous donner la possibilité, parce que beaucoup de monde ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça passe. Ils voient les bâtiments noirs et après, comme par magie, ça disparaît l'échafaudage et le bâtiment il est tout propre, tout beau. Mais ils ne savent pas combien d'heures des femmes et des hommes, surtout il y a beaucoup de restauratrices femmes qui travaillent sur les chantiers de plus en plus. Et le travail d'un restaurateur, il est fait tout à la main, que c'est un savoir-faire. Du coup, personne ne sait, nous, on est les travailleurs de l'ombre, parce qu'il dit, waouh, c'est magnifique, mais il ne sait pas combien d'heures on a passé pour faire tout ça. Des fois au froid, parce qu'il fait très froid à Paris, des fois. Voilà.
Est-ce que vous rêvez secrètement de travailler sur le futur chantier de Notre-Dame ?
Ça, c'est une question que tout le monde me pose. Je ne sais pas pourquoi, quand il a cramé, malheureusement.
Parce qu'on est sûr qu'il faudra faire quelque chose. Mais
Oui, sûrement, ce sera un honneur. Parce que je pense que c'est un monument très important. C'était une blessure. Voir Notre-Dame cramée, ce n'était pas facile pour nous restaurateurs, mais pour tout le monde. Du coup, oui, j'espère. Pour papa, ce sera un honneur.
Pollution sur les pierres, blessures sur les ornements et les sculptures, certains travaux de restauration de Saint-Denis doivent se faire ailleurs, en atelier, comme la restauration des grandes statues extérieures, par exemple. Pour cela, il faut aller près de Troyes, sur le site de la SNBR. Et j'entre ici, dans le bureau de Nicolas.
Bonjour, je suis Nicolas Niquet. Je suis restaurateur donc, au sein de l'entreprise SNBR.
Aujourd'hui, là, je vous trouve devant des logiciels très compliqués, du modelage digital.
Alors, je suis issu de la licence des Beaux-Arts. Je me suis spécialisé dans la conservation et restauration du patrimoine. Actuellement, doctorant en restauration du patrimoine, spécialisé dans les nouvelles technologies, d'ailleurs. L'arrivée à ce genre de logiciel se fait assez naturellement, c'est les nouvelles technologies émergentes. Donc on les utilise, on les applique comme un outil supplémentaire.
Donc vous savez aussi bien modeler l'argile que...
Exactement, on commence par le modelage, on va dire, plus traditionnel, comme on pouvait le faire avec de l'argile. Et finalement, on change notre spatule par le stylet et la tablette. On réalise le même travail, mais avec d'autres outils qui ont d'autres bénéfices, qui apportent de la vitesse au travail et de la précision. Alors là, on a l'ange reconstitué.
Sous nos yeux, une représentation d'un ange qui porte un disque solaire avec une main ouverte au niveau du torse.
un visage doux, des ailes. Il représente une statue de la basilique Saint-Denis, endommagée et à refaire complètement.
Alors, à partir d'un scanner de précision réalisé sur place, on travaille les fichiers de sorte à reconstituer de manière virtuelle en première instance toutes les parties perdues des statues, en partenariat justement avec les sculpteurs sur place. Et finalement, on peut, à partir de ces fichiers, recréer en pierre les statues qui sont finalisées donc, de la main du sculpteur.
Alors, notre petit ange.
Je vais ouvrir notre petit ange.
Un petit ange qui fait quand même 3 mètres de haut, grosso modo.
Oui. Ah, attendez, j'ai ça.
Mais moi, je n'ai pas vu les ailes, en fait.
Ouais. Alors, c'est vrai que les ailes sur les vestiges ont disparu. On a une moitié d'ailes, d'ailleurs, qu'on a ici derrière vous, qui a été déposée. Et c'est justement sur ce modèle qu'on s'est basé pour la reconstruction finale.
Ah, oui. Donc là, on a scanné. C'est le bloc d'ailes
originelles. Oui. Et donc, finalement, on a assez d'informations pour voir un petit peu comment étaient taillées les plumes. Ça nous donne pas mal d'indices pour joindre un petit peu tous les bouts et pouvoir reconstruire petit à petit les volumes manquants.
D'accord.
On n'est pas sûr, finalement, que cette main pouvait être exactement comme celle-ci, mais on interprète de manière la plus respectueuse possible par rapport aux vestiges et le plus neutre possible. Finalement, on ne crée rien qui ne soit pas logique, on va dire, par rapport à la pièce. Et ça passe ensuite à un autre intervenant qui va passer à une étape plus de programmation. C'est cette étape qui va dire au robot finalement quel mouvement, quelle pression, quelle vitesse exercer sur le matériau pour finalement créer la pièce. C'est lui qui va lui donner les coordonnées pour qu'il sache vraiment où aller travailler sur le bloc de pierre.
Ça, c'est le travail de Pierre Gorier alors?
Exactement, c'est ça. Oui.
Bonjour madame, je suis Pierre, le chef d'atelier. Sur cette partie-là, donc c'est la partie robotisée. Donc vous imaginez, on a fait nos blocs qui sont rectangulaires.
Donc le robot, pour le décrire, en fait, c'est un énorme bras articulé qui fait facilement, s'il se déployait, il fait facilement 4 mètres avec ses deux articulations.
Non, ça fait 3 mètres à peu près de longueur quand il est complètement déplié. Le robot, donc là, vous avez une broche dessus avec un outil qui tourne. Les têtes sont interchangeables, donc on va enlever l'électrobroche pour prendre le moteur où il y a la scie ou le moteur où il y a le fil. En posant la pièce ici, toutes les étapes sont faites sur la même machine.
En fait, c'est un peu comme si on était chez le dentiste, mais avec un système géantissime.
Voilà, c'est beaucoup plus gros, mais c'est dans le même principe.
Et les sculptures seraient les dents.
Voilà, en quelque sorte. Donc ça c'est une des pièces qui vient d'être faite. Vous voyez, donc vous avez des feuillages qui vont être recollés sur la partie manquante. Et là, vous avez la partie où il y a la cassure. On le colle dessus et ensuite, on va rattraper, redonner une harmonie avec tout cet ensemble.
Et c'est la même pierre que celle qui est à Saint-Denis.
Voilà, c'est la même pierre qui était celle qui est à Saint-Denis. Il y a des morceaux qui ont été démontés, qui ont été ramenés dans nos ateliers.
Donc là, c'est des bouts de feuilles, effectivement. C'est un morceau, peut-être. Ah oui, ça se voit très bien parce que c'est presque une demi-feuille, là, en fait, que vous avez dû refaire. Enfin, oui, une feuille.
Donc là, vous avez la forme générale qui est faite.
Feuille
mais
de chêne, peut-être.
Il faut bien s'imaginer que derrière, ça va être retravaillé manuellement. Mmh. On ne laisse pas la pièce sans caractère et elle va être un petit peu usée pour que ça ressemble aussi à ce qui est à côté.
Il faut aussi fabriquer l'usure.
Voilà, il faut que ce soit une harmonie avec tout l'ensemble.
Fabriquer l'usure, donner de la vie à ces sculptures qui sortent des mains du robot, c'est le métier du sculpteur. Benoît Meynier est indépendant, il intervient ici sur l'ange au disque solaire de Saint-Denis. Ici, c'est la chevelure de l'ange que Benoît Meynier façonne. Des ondulations qui doivent correspondre à la documentation historique.
Là, je suis en train de faire toute la partie de finition, on va dire, puisque le robot amène un travail qui pourrait ressembler à quelque chose d'assez... On peut imaginer comme s'il y avait quelque chose de gras ou du miel qui coule sur la sculpture, donc qui remplit un petit peu tout. Et mon travail, c'est de redonner un petit peu de vie à tout ça en mettant un peu de couleur, en mettant un peu de grain, un petit peu de noir, un petit peu de valeur, de nuance dans la sculpture.
Ouais, comment vous faites ça ?
J'ai tous les outils traditionnels depuis que la sculpture existe pour faire ce travail. Donc je redonne la dynamique de l'aspect que pouvait avoir l'original à l'époque.
Utiliser un robot pour faire des sculptures est parfois sujet à polémique dans la profession. Quid du savoir-faire du sculpteur, métier ancestral, manuel et artistique?
Moi, je trouve ça très bien. Je compare ça bien souvent, s'il fallait faire une fondation d'une maison à la pelle et à la pioche et avec une pelleteuse. C'est-à-dire que, évidemment, maintenant, on ne se pose même plus la question. On va utiliser l'appareil le plus approprié et allons-y, quoi. Et du coup, le robot, c'est pareil. C'est pas quelque chose qui nous prend le travail, c'est quelque chose qui nous accompagne dans le travail. C'est-à-dire que tout le côté difficile et physique qu'on a au début, quand on approche la sculpture, là, c'est très très dur quand même. Il faut taper fort, c'est beaucoup de transpiration, beaucoup d'efforts à fournir. Mais ça, c'est le travail du robot maintenant. Donc ça devient quelque chose de plus confortable. Et après, le travail de finition, je trouve ça pas spécialement rébarbatif puisque ça me permet d'être confronté à beaucoup plus de sujets, beaucoup plus rapidement que s'il fallait que je travaille de façon traditionnelle. Et en finalité, on sent pas spécialement la différence puisque c'est absolument impossible à constater le fait que ce soit usiné ou pas. Le résultat est tout à fait acceptable.
Jacques Moulin est architecte en chef des monuments historiques. C'est lui, par exemple, qui a initié le chantier d'un château fort à Guédelon. Son credo, ce sont les techniques anciennes. Il fait donc restaurer la basilique de Saint-Denis et en plus, il envisage d'y refaire une tour et une flèche qui existaient il y a fort fort longtemps.
En arrivant, il y a une dizaine d'années, je suis tombé sur une situation un peu particulière. D'une part, ce monument insigne de l'histoire de France, de l'histoire de l'architecture, est extraordinairement méconnu. Ce monument, il est sur tous les traités d'architecture du monde, à 1/100 des visiteurs de Notre-Dame de Paris. On est sur une ligne de métro, on est en pleine région parisienne et un déficit de reconnaissance.
Alors c'est quoi l'intérêt de faire la plus grande flèche de l'île de France pour faire la fière comme dans les siècles passés?
Une flèche. J'ai découvert à quel point ça pouvait être formidablement fédérateur. Pour moi, la flèche, ce n'est pas un objectif, c'est un moyen. C'est un moyen de redynamiser la fréquentation, c'est un moyen de redynamiser la notoriété, c'est un moyen de redynamiser l'intérêt savant d'un certain nombre de gens sur la basilique. Parce que si l'on ne suscite pas un intérêt public, cette basilique, elle continuera d'être le monument le plus sale d'Europe. En revanche, on connaît tous le drame de Notre-Dame de Paris, on connaît tous les questions qui sont évoquées par chacun sur la charpente, en quel matériau, une flèche, sous quelle forme, etc., etc. Mais le plus gros du chantier de Notre-Dame de Paris, ça va pas être la charpente ou la flèche. Ça va être la restauration des maçonneries. Ça va être la restauration des tours qui ont été abîmées par le feu, des pignons du transept abîmés par le feu, des voûtes abîmées par le feu, etc., etc. Donc le plus gros du travail, c'est un travail discret, mais considérable, de restauration des pierres. Et aujourd'hui, il faut être pleinement conscient qu'il n'y a pas la technique de taille de pierre correspondante.
Mais je ne comprends pas pourquoi vous dites ça, puisque enfin, les savoir-faire existent. On est en train de restaurer Saint-Denis. Les restaurateurs et restauratrices existent, ils sont là. Donc, s'ils peuvent être là, ils peuvent aussi être au chevet de Notre-Dame.
Ils existent, mais vous en avez vu une pincée, parce qu'il n'en existe qu'une pincée.
Il n'y a pas assez de monde.
Vous rendez-vous compte qu'un chantier comme celui de Notre-Dame va équivaloir en dépenses, donc en emploi, donc en savoir-faire. Ça va équivaloir à l'équivalent de ce qui se fait sur tous les chantiers de France à la fois. Vous pensez que du jour au lendemain, par génération spontanée, on va pouvoir, pas doubler, multiplier par 100 les équipes correspondantes. De toutes les manières, quand vous lancez un appel d'offres aujourd'hui, en maçonnerie, vous n'avez parfois aucune entreprise qui n'y répond, parce que d'ores et déjà, nous n'avons plus assez de tailleurs de pierre. On a la chance d'avoir en France encore une certaine formation de tailleurs de pierre, mais où on apprend aussi bien à tailler avec des outils anciens d'une main qu'à tronçonner à la disqueuse de l'autre. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin sur d'autres chantiers, même en Île-de-France, pour s'apercevoir que les restaurations de pierre, bah, une fois l'échafaudage démonté, vous vous mettez au pied du monument et vous comptez toutes les pierres neuves parce qu'elles ont été taillées avec des techniques modernes, incompatibles avec le monument ancien, et que vous le voyez sur une façade comme le nez au milieu de la figure. Tout ce que je souhaite, c'est que les gars que nous formerons sur le chantier de la Flèche, ils puissent, de Saint-Denis, ils me soient piqués pour Notre-Dame. C'est tout l'objectif d'un chantier pédagogique. Et faire en sorte que le chantier de la Flèche de Saint-Denis devienne le passage obligé de tous les tailleurs de pierre du Tour de France, qui, au lieu d'apprendre dans 5 entreprises comment faire de la restauration à l'ancienne avec des techniques modernes, au moins que dans une de leurs étapes, ils apprennent à faire de la restauration ancienne avec les outils anciens, selon les techniques anciennes. Sinon, vous n'aurez simplement qu'une restauration contemporaine sans aucune authenticité à part son prix.
Sur la tour de Notre-Dame viennent dormir les oiseaux de Notre-Dame font leur nid près des vitraux.
Après Notre-Dame, le patrimoine en chantier, c'était un reportage de Christine Siméone, avec la contribution parfois perchée de Laurent Lucas, Romain Luquins et François Rivalan pour la prise de son. Réalisation Violaine Ballet, assistée de Martine Messonnier. Mixage Claude Niort. Vous pouvez le réécouter sur franceinter.fr.
Comme ceux qui, sans manière, s'aiment au pied des tours.
La semaine prochaine, nous vous emmènerons avec Vanessa Descoureaux au Portugal, un pays dont l'économie a été partiellement sauvée par le tourisme et où le tourisme rend désormais la vie difficile aux Portugais.
Thank you.